tout en Jésus-Christ. Lecture de la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Pour moi donc, mes frères, quand je suis venu vers vous, je n'y suis point venu avec excellence de parole et de sagesse humaine, en vous annonçant le témoignage de Dieu. Parce que je ne me suis proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et j'ai même été parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'a point été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en évidence de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit point de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Or, nous proposons une sagesse entre les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n'est point de ce monde, ni des princes de ce siècle qui vont être anéantis. Mais nous proposons la sagesse de Dieu, qui est en mystère, c'est-à-dire cachée, laquelle Dieu avait, avant les siècles, déterminée à notre gloire, et laquelle aucun des princes de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de gloire. Mais, ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouïes, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. En recueillant avec vous, mes chers amis, et comme sous vos yeux les résultats dans lesquels m'a affermi l'expérience de la vie et du ministère évangélique et l'étude de la parole de Dieu, je disais dimanche dernier « tout par le Saint-Esprit ». Disons aujourd'hui « tout en Jésus-Christ ». On est porté quelquefois à se représenter Jésus-Christ comme ayant seulement ouvert pour nous la porte du ciel et puis nous ayant quelque sorte abandonnés pour y marcher par nous-mêmes. Mais c'est une vue bien étroite que celle-là de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il est pour nous. Et saint Paul avait assurément de plus hautes pensées lorsqu'il écrivait « Je n'ai voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Pour lui, Dieu tout entier se résume en Jésus-Christ, et Jésus-Christ tout entier se résume dans sa croix. Et ailleurs, il nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Où nous voyons que Jésus-Christ ne nous a pas été donné seulement pour effacer nos péchés par son sang une fois répandu, mais qu'il nous a été donné encore, une fois réconciliés avec Dieu par ce précieux sang, pour nous conduire, pour nous sanctifier, pour nous remplir de sagesse et pour accomplir tout en tous. Et encore, toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. C'est dans la chair, c'est sous une forme visible que Dieu habite en Christ, mais il y habite tout entier avec toute sa gloire et toutes ses perfections éternelles. Et ailleurs encore, dans un autre passage bien profond du même apôtre, « Toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. » Où nous voyons Dieu, par une admirable, une merveilleuse hiérarchie, à la tête de l'organisation tout entière de la vérité éternelle, envoyant et conduisant son Fils, et son Fils à son tour nous appelant et nous adoptant à lui, afin qu'au nom de ce Fils nous dominions sur toutes choses et que nous possédions l'univers tout entier du droit de membre de celui auquel l'univers tout entier est soumis. Toutes choses sont à vous, premier degré, et vous à Christ, second degré, et Christ à Dieu, premier ou troisième degré, degré suprême auquel tout le reste se rattache et duquel tout le reste dépend. Que nous voilà loin maintenant de la pensée de ceux qui se représentent Jésus-Christ comme ayant accompli seulement un acte, l'acte principal du salut. Jésus-Christ est le Dieu de l'homme, comme l'a si bien dit Pascal dans quelques pages où il développe d'une manière profondément chrétienne la place que Jésus-Christ occupe entre Dieu et nous. Il est le Dieu de l'homme. Il est Dieu qui s'est donné à nous. Il s'est donné tout entier. Et quand nous possédons Jésus-Christ par une foi véritable, nous ne possédons rien moins que Dieu lui-même. Et en lui, la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Aussi, quel que soit le besoin qu'il s'agisse de satisfaire dans nos âmes et dans notre existence tout entière, terrestre et éternelle, nous le trouvons en Jésus-Christ. S'agit-il avant tout d'effacer nos péchés? Il les a effacés par son sang. Il n'y a qu'une chose au monde qui efface les péchés. Ce ne sont pas nos pénitences, ce n'est pas notre repentir, ce ne sont pas nos aumônes et nos bonnes œuvres, ce ne sont pas même nos prières, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tout péché que le sang de Jésus-Christ a couvert est à jamais anéanti devant Dieu. Dieu lui-même ne le voit plus. Je pourrais employer des expressions plus fortes encore sans m'écarter de l'Écriture. Dieu lui-même les cherche, dit un prophète, et ne les trouve plus. Il a jeté nos péchés derrière son dos pour ne plus les contempler. Il les a précipités au fond de la mer. Et, nous contemplant en Christ, il nous contemple sans péché comme Christ lui-même, qui a été fait péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. S'agit-il d'être consolé dans nos peines? Nous allons à Jésus-Christ. Il a souffert comme nous, plus que nous, infiniment plus que nous ne pouvons souffrir, infiniment plus que nous ne pouvons concevoir qu'on puisse souffrir. Toutes nos douleurs ne sont qu'un petit ruisseau, détaché du fleuve de sa douleur infinie, comme c'est aussi de sa croix que coule toute consolation et toute miséricorde. Et c'est vers l'homme de douleur que nous allons chercher la consolation et la paix, sachant qu'il sait ce que c'est que la langueur, sachant qu'en nous approchant de lui, nous trouverons non seulement le soulagement de nos douleurs, mais que nous y verrons des bénédictions véritables, et que nos afflictions les plus amères seront trouvées à la fin ses grâces les plus signalées. S'agit-il de la lumière et de la sagesse, de la force et de la résistance au péché? S'agit-il de ce monde, ou s'agit-il de l'autre? Tout est à Christ. Ayant Christ, nous avons toutes choses, mais privés de lui, nous n'avons absolument rien. C'est pour cela que l'apôtre saint Paul, dans ce passage si merveilleux que je vous citais tantôt, dit « Toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. » Toutes choses sont à vous, si vous êtes à Christ qui est à Dieu. Ce n'est pas le rapport de Dieu à Christ qui sera contesté par personne. Ce n'est pas le rapport de Christ à nous, si nous sommes de vrais chrétiens, qui pourra être contesté. Eh bien, qu'en résulte-t-il? Que toutes choses sont à nous. Je suis pauvre? Toutes les fortunes de ce monde sont à moi, car elles sont à Christ, qui est à Dieu, et qui saurait bien me donner avec lui et par-dessus lui toutes les fortunes de la terre, si elles m'étaient utiles. Si au lieu des richesses il me donne la pauvreté, c'est quel est ce qu'il y a de meilleur pour moi et le résultat du choix de Dieu. Tout le monde entier, avec toutes ses gloires et sa puissance, m'appartient, car ils appartiennent à mon Père qui me les donnera demain et qui pourrait me les donner aujourd'hui si cela m'était bon, car il en dispose à son gré. Je suis malade? La santé est à moi, la force est à moi, le bien-être est à moi, une jouissance parfaite de tous les biens de la vie est à moi, car tout cela est à Christ qui est à Dieu et qui en dispose à son gré. Pour qui en disposerait-il si ce n'est pour moi, son enfant? Que si donc il me les refuse aujourd'hui, pour un moment fugitif, qui passe comme une navette de tisserand, c'est qu'il a ses raisons pour cela, c'est qu'il y a dans ses douleurs et dans cette amertume des bénédictions cachées, qui valent mieux pour moi que cette santé si précieuse et ce bien-être si doux. Il ne me prive jamais d'aucun bien que pour m'en accorder quelque autre meilleur. C'est là ma consolation, elle est toute dans son amour. S'agit-il de la sagesse et des lumières? Eh bien, quand même je serais ignorant toute ma vie, que je n'aurais pas eu l'occasion de cultiver mes facultés dans le monde, je suis savant en Christ. Connaissant Christ, je suis plus éclairé et plus illuminé des choses de Dieu que l'homme de ce monde qui a pâli une vie entière sur ses livres, car je connais cette lumière incréée, éternelle, qu'il ne connaît pas, qui est la lumière dans laquelle se réjouit Dieu lui-même et par laquelle je suis conduit infailliblement à travers toutes les obscurités de la vie. Je vous défie de trouver quelque chose dont je ne puisse pas dire « Cela est à mon Père, donc cela est à moi ». S'il me le refuse aujourd'hui, il me le donnera demain. Je me fie à son amour. Tout est à moi si je suis à Christ. Aussi, Remarquez que saint Paul dit dans le chapitre que nous avons lu en commençant « Je n'ai voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ô mes amis, ne soyons pas assez ingrats pour oublier que c'est sous la croix et par la croix que Jésus-Christ nous a acquis et mérité cette immense félicité que j'essaie de décrire et que je ne réussis pas même à entrevoir ou à concevoir. C'est par son sang versé, c'est par ses souffrances inimaginables qu'il a tout accompli pour nous. Son amour est le principe de notre délivrance et de notre rédemption tout entière. Voilà le Sauveur. C'est par là que nous avons commencé, c'est par là qu'il faut finir. Nous venons à sa croix, nous nous asseyons sous sa croix, nous ne voulons pas que rien au monde nous arrache de cette place, nous y voulons vivre et nous y voulons mourir. Chers amis, bientôt, toutes les scènes de ce monde auront passé. Nous avons de l'angoisse au monde, mais ayons bon courage, Jésus-Christ a vaincu le monde. L'homme fort a été lié par un plus fort que lui. Et maintenant, nous voici en la présence de Christ qui nous a rachetés par son sang et qui nous attend pour nous combler de gloire et de félicité. Ne voulez-vous pas de sa gloire? Ne voulez-vous pas de son amour? Connaissez-le tel qu'il est. Embrassez-le tout entier par une foi sincère, afin que vous réalisiez ces paroles admirables de l'apôtre que nous avons un instant méditées, que vous soyez heureux dans la vie et plus heureux dans la mort, et que cette vie si triste pour l'homme du monde soit pour vous une existence dont la lumière et la paix ira toujours croissant jusqu'au jour de Christ, auquel soit rendue la louange, l'honneur et la gloire, et par-dessus tout l'hommage de nos cœurs et d'un amour répondant, s'il se peut, au sien.